Vous écoutez, on lit pour vous.
On a une jeunesse sans peur qui fracasse les tabous. Un texte de Farnaz Fassihi et Sanam Maouzi du New York Times, paru le 30 novembre 2025 dans la presse. Des milliers de jeunes femmes, cheveux découverts, portant jeans et hauts très courts, et de jeunes hommes sautaient, dansaient et chantaient lors d'un concert pop en plein air. Ailleurs en ville, d'autres jeunes se déhanchaient dans la rue au rythme d'un groupe de hard rock. Et par centaines, ils ont accouru aux deux sites du Festival Design Week avec ses installations artistiques exubérantes, ses spectacles son et lumière et ses concerts. Ce n'est ni New York ni Berlin, mais Téhéran, capitale de l'Iran, où la jeunesse préside depuis peu à une renaissance sociale. 5 jours durant en novembre, un festival de jazz a fait vibrer cafés et galeries d'art. Quel contraste avec l'année 2020, quand des femmes étaient battues et embarquées par la police pour avoir montré une mèche de cheveux, que les forces de sécurité débarquaient dans les maisons pour disperser des fêtes privées et que la danse était interdite en public. La société change à vitesse grand V. Outre les ouvertures visibles dans l'espace social, on a une jeunesse sans peur qui fracasse les tabous, explique Donia Amiri, critique de mode et créatrice de 33 ans, à Téhéran. La jeune génération réclame ses libertés fondamentales et elle y parvient à force de persévérance. De nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux et des entretiens menés avec plus d'une vingtaine d'Iraniens, artistes, designers, musiciens, entrepreneurs, étudiants, sociologues et analystes politiques, dépeignent un pays en pleine mutation. La dissidence politique demeure réprimée. Condamnations à mort et exécutions sont fréquentes. Début novembre, au moins 4 universitaires, économistes et écrivains ayant critiqué le système ont été arrêtés. Mais le gouvernement du président Massoud Pezeshkian, un chirurgien cardiologue qui a fait campagne en promettant plus de liberté sociale, semble peu enclin à contrer la vague de changement ou capable d'y arriver, hésitant peut-être à sévir de crainte de déclencher des troubles qui se retourneraient contre lui. Car l'État iranien vit déjà crise sur crise. Économie en lambeaux, grave pénurie d'eau et d'énergie, reconstruction après la guerre avec Israël. La danse sert d'exutoire. Les festivités ne se limitent pas à Téhéran. Concerts et festivals foisonnent dans les villes et villages de tout l'Iran, attirant des foules immenses. À Yazd, ville religieuse et conservatrice, une soirée où on chantait en chœur des chansons pop d'avant la révolution islamique, naguère interdite, a été organisée. Événement mixte. La ville de Kerman a tenu en octobre un marathon dans le désert où hommes et femmes ont couru côte à côte. Yoga matinal et exercice en groupe sont devenus monnaie courante dans les parcs, tout comme des prestations musicales dans les rues, notamment par des chanteuses. On a vu des danseurs hip-hop à Shiraz et ailleurs. Et les soirées où les DJ font danser les gens dans des cafés et centres commerciaux se multiplient. Nous avons soif de bonheur et de joie, lance Parnia, une esthéticienne de 26 ans rencontrée à Téhéran. Elle a demandé de taire son nom de famille par crainte d'être arrêtée. Je vais à ses concerts pour la musique et là, je ne pense ni à la guerre, ni au conflit. Je vis l'instant présent et savoure cette soirée spéciale. Dans le désert, près d'Ispahan, on organise des rêves autour d'effigies surdimensionnées et de feux de joie. On dirait le festival Burning Man au Nevada. Même le Grand Bazar de Téhéran, ce bastion de la tradition, a organisé un défilé de mode où des mannequins féminins ont défilé sur un tapis rouge, vêtus de manteaux de fourrure et de châles en cachemire. Des restaurants de Téhéran servent discrètement vin et cocktails à la vodka. Ce mouvement social émane de la jeunesse qui, liée au monde extérieur par les réseaux sociaux, craint moins l'arrestation, défie les interdits et libère l'espace public du contrôle exercé par le régime islamique, avec sa répression obsessive des rassemblements mixtes, de la danse, du chant, de l'alcool et de tout événement de style occidental. Le gouvernement lui-même, après une hésitation, a sauté dans le train en marche. En septembre 2025, il a organisé une série de concerts en plein air gratuits à travers le pays, les concerts du bonheur, invitant chanteurs et groupes de renom à se produire, afin de renforcer l'élan patriotique né de la guerre de 12 jours avec Israël en juin. Du jamais vu. Les événements festifs de l'État iranien se tiennent traditionnellement dans des mosquées, avec des prières publiques, et non à l'extérieur avec des concerts pop. Cette initiative a suscité éloges et critiques. Enfin, quelque chose d'agréable, ont applaudi certains. Hypocrisie crasse pour faire oublier les multiples misères du pays, ont dénoncé des sceptiques. Quoi qu'il en soit, les concerts ont remporté un franc succès avec plus de 1 million de participants, selon les médias locaux. Ils ont eu un effet que l'État n'avait pas prévu. Ils ont mis en évidence le fossé grandissant entre les dirigeants islamiques et la nouvelle génération. Les Iraniennes se libèrent du hijab. Depuis la guerre, le gouvernement des mollahs a dû relâcher son contrôle strict du choix des paroles et des chansons lors des concerts, tout comme l'interdiction de danser et le voile obligatoire pour les femmes. Selon le journaliste musical et promoteur musical Bahman Bazadeh, 42 ans, au moins 4 concerts sont organisés en moyenne chaque soir dans les grandes villes comme Téhéran, Shiraz et Ispahan, attirant des milliers de spectateurs. Ce détournement des règles islamiques irrite les conservateurs, qui ont appelé la police et les tribunaux à intervenir, avertissant qu'à ce rythme, la révolution islamique disparaît très bientôt. Les autorités ont réprimé quelques manifestations, un défilé de mode ici, un concert là, mais devant tant d'activités, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Certains analystes décrivent ces célébrations comme une forme de résilience et de défi, similaire au mouvement des femmes qui ont risqué gros pour contester le port obligatoire du voile lors des manifestations nationales de 2022 après la mort de la jeune Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs islamiques. La société iranienne a réussi à créer des fissures dans la structure du pouvoir grâce à ses formes de résistance et à contraindre le régime à céder sur certains points, a déclaré Mojtaba Najafi, analyste politique établi en France, qui a rédigé une thèse de doctorat sur les mouvements sociopolitiques en Iran. C'était « On a une jeunesse sans peur qui fracasse les tabous », un texte de Farnaz Fassi et Sanam Maouzi du New York Times, paru le 30 novembre 2025 dans la presse.
dans la série Enquête de solutions du journal La Presse, 60 jours sans cellulaire, l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Une citation coiffant le texte signé Tristan Péloquin et François Roy. Figure connue du journalisme suédois, Éric Galli, 34 ans, a touché à beaucoup de sujets délicats au cours de sa jeune carrière. Il a subi des interventions en chirurgie plastique et s'est injecté des produits amaigrissants du marché noir devant la caméra. Se priver de son téléphone pendant 60 jours a été, de loin, l'expérience, citation, la plus traumatisante, fin de citation, de sa vie, assure-t-il. Son documentaire « Schrum Free plus sans daga », en français « sans écran pendant 100 jours », relate ses 40 jours de préparation et les 60 jours de cette cure numérique totale qu'il s'est imposée pour le documentaire. Il n'avait droit qu'à un bon vieux téléphone à rabat et devait se limiter aux appels téléphoniques traditionnels pendant toute la durée de l'expérience. Citation, ça a été horrible. On se sert de nos téléphones intelligents pas seulement parce qu'on est accro, mais aussi parce qu'ils nous rendent la vie facile, dit l'ancien journaliste de Vice que nous rencontrons au café Petite France au cœur du vieux Stockholm. Chaque petit geste du quotidien, se déplacer en ville sans GPS, faire cuire un œuf à la coque sans minuteur, gérer son horaire sans agenda, est vite devenu pour lui un enfer. Citation, « J'ai vécu énormément de frustration », dit-il. Mais le plus pénible, ça a été l'isolement social que ça m'a fait vivre. Fin de citation. Autre citation, je me suis rendu compte que je m'appuie sur les médias sociaux depuis des années pour faciliter le contact avec les gens. Pour moi, c'est même effrayant d'appeler quelqu'un au téléphone, même si je connais la personne depuis longtemps, parce que j'ai l'impression d'envahir la vie privée des gens en les appelant. Fin de citation. Il y a quelque chose de générationnel là-dedans, reconnaît Éric Galli. Citation. Pour moi, qui ai grandi avec un téléphone intelligent, c'est beaucoup plus normal de texter les gens. Aller sur Instagram et commenter sous des statuts, c'est aussi une façon normale de socialiser et même d'organiser une rencontre pour prendre une bière avec des amis. Fin de citation. Étonnamment, la fameuse anxiété de ratage, fear of missing out ou FOMO, en anglais, ne l'a pas trop affecté. Citation, j'étais juste isolé. Pendant 60 jours, je n'ai pratiquement vu personne et ça m'a déprimé, confie Éric Galli. Citation, je m'étais promis que j'allais en profiter pour écrire un livre. Mais rien de tout ça ne s'est produit. Je ne suis pas devenu magiquement un surhomme. J'étais juste la version habituelle de moi-même, mais avec beaucoup de temps à tuer. Fin de citation. Avec le recul, Éric Galli constate que la société suédoise fait subir une forme de lapidation numérique, digital shaming, aux jeunes en tentant d'attribuer à leurs habitudes numériques beaucoup de maux de la société. Citation. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Le temps d'écran, ce n'est pas nécessairement ce qui va ruiner votre vie, quoi qu'en disent certains experts. Ne les écoutez pas. Conseille Éric Galli, fin de citation. Et fin de ce texte titré « L'expérience la plus traumatisante de ma vie » à l'égard de 60 jours sans cellulaire, un texte de Tristan Péloquin et François Roy, rédigé dans la série « Enquête de solutions » du journal La Presse, publié dans l'édition de ce journal du 31 janvier 2026.
Pourquoi les trottoirs sont-ils glacés à Montréal?
un texte de Marco Fortier, publié le 10 janvier 2026 dans Le Devoir. Les trottoirs sont un danger public. Ça ne vous tenterait pas d'étendre du sel ou du sable sur les trottoirs, aux intersections, ainsi que sur les bouts de rue qu'on doit traverser à pied, a lancé une Montréalaise sur les réseaux sociaux cette semaine. Des cris du cœur comme celui-là sont venus de tous les quartiers de la métropole au cours des derniers jours. Les services d'urgence ont été débordés par des gens victimes de chutes sur les trottoirs. Même les gestionnaires des opérations de déneigement en ont eu plein les bras. C'est le début d'hiver, le plus difficile que j'ai connu, confirme Martin Lazur, chef de section au déneigement depuis 12 ans, à la cour de voirie de l'arrondissement de Ville-Marie rue Bercy. Étendre du sel et de la pierre concassée sur les trottoirs, c'est ce qu'on font presque en continu Martin Lazur et son équipe. Ils ont mené 21 opérations de sablage et de grattage de trottoirs depuis la mi-novembre. Normalement, ils en font de 25 à 30 durant tout un hiver. Le gestionnaire a commandé 18 000 tonnes d'abrasifs pour cet hiver. On n'est qu'au début de janvier et il en a déjà épandu 17 000 tonnes uniquement dans l'arrondissement de Ville-Marie. On parle de 17 000 tonnes d'abrasifs en 2 mois pour 184 km de rue, 293 km de trottoir et 35 km de pistes cyclables dans le seul arrondissement. Pour l'ensemble de la ville, c'est plus de 10 000 km de rue, trottoirs et pistes cyclables qu'il faut entretenir. Gel, dégel, neige, pluie, la météo ne nous a pas aidés. Dit Martin Lazur, celle-ci a compliqué la vie des responsables du déneigement et de l'ensemble des Montréalais, il y a une douzaine de jours. Il a beaucoup neigé durant le temps des fêtes. Une opération de chargement de la neige était en cours lorsqu'une pluie verglaçante est venue perturber les déplacements le 29 décembre. Les températures ont ensuite chuté sous les moins 20 degrés Celsius, ce qui a transformé la métropole en véritable patinoire. D'autres averses de neige sont venues recouvrir la glace, jusqu'à la pluie les derniers jours. Depuis le temps des fêtes, les équipes de la ville passent leur temps à sabler, avec un mélange de sel et de pierre concassée, les rues, les trottoirs et les pistes cyclables, puis à déneiger dès qu'une accumulation de neige atteint 2,5 cm. Et ça recommence, sans arrêt, au rythme du gel, du dégel, de la neige et de la pluie qui tombe. L'objectif est le même pour tous les types de chaussées, précise Martin Lazur. Les trottoirs, on veut qu'ils soient complètement dégagés. Les attentes sont très élevées, on le sait. Si le résultat n'a pas été aussi bon qu'on aurait voulu, ce n'est pas faux d'y avoir mis tous les efforts nécessaires. Et les pistes cyclables? Des Montréalais de tous les quartiers se demandent tout de même pourquoi certaines pistes cyclables sont parfois parfaitement déblayées, tandis que des trottoirs restent couverts de neige et de glace. En théorie, tous les types de chaussées, rues, trottoirs, pistes cyclables, sont entretenus selon les mêmes exigences, explique Guillaume Rivet, relationniste de la ville. 3 degrés de priorité guident l'ordre du déneigement, en partant des artères principales où se trouvent écoles ou hôpitaux, jusqu'aux petites rues résidentielles peu fréquentées. Les pistes cyclables ne sont pas déneigées en priorité, c'est juste qu'elles représentent un nombre de kilomètres si faible que leur entretien est terminé bien avant celui des trottoirs, rappelle le porte-parole de la ville. Et l'entretien des pistes cyclables est beaucoup plus simple que celui des trottoirs. Les trottoirs peuvent être très étroits. Ils sont jalonnés d'obstacles, poteaux, poubelles, bacs de recyclage, supports à vélo, bancs, signalisations, chantiers de construction. Tous ces obstacles compliquent le déneigement. Autre élément qui défavorise les trottoirs, surtout conçus en béton, les pistes cyclables sont généralement en asphalte, un matériau qui absorbe la chaleur du soleil. C'était « Pourquoi les trottoirs sont-ils glacés à Montréal ?» un texte de Marco Fortier, publié le 10 janvier 2026 dans Le Devoir.
Ozempic peut-il traiter d'autres problèmes que l'obésité? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 janvier 2026 dans La Presse. Les agonistes du GLP-1, comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro, promettent une perte de poids spectaculaire en produisant une sensation de satiété. Des médecins estiment qu'il pourrait être aussi utile pour des maladies non liées à l'obésité. Les cardiopathies. En 2025, 2 études ont montré que les agonistes du GLP-1, ces molécules qui imitent une hormone gastro-intestinale ralentissant la digestion et produisant une sensation de satiété, diminue certains risques cardiovasculaires, même chez les patients ayant un poids normal. Ces résultats ont enthousiasmé Atul Verma et Abhinav Sharma, chercheurs au Centre universitaire de santé McGill. Cusum. Il semble avoir des effets cardiovasculaires bénéfiques indépendants de l'obésité, dit le Dr Verma, directeur de la cardiologie au Cusum, qui travaille à une étude sur la possibilité que les agonistes du GLP-1 réduisent le risque de fibrillation auriculaire. Il y a une baisse de la pression artérielle ainsi qu'une amélioration au niveau du cholestérol et du fonctionnement des vaisseaux sanguins. Nous ne comprenons pas exactement les mécanismes en cause, mais ça semble lié à une diminution de l'inflammation. Le Dr Sharma, de l'Institut de recherche du Cusum, IR Cusum, qui travaille sur le même projet, note que d'autres études semblent montrer une réduction du risque de crise cardiaque, indépendamment du poids. Les agonistes du GLP-1 ont été au départ utilisés chez les diabétiques parce qu'ils stimulent la production d'insuline, une hormone qui facilite le passage du sucre du sang vers les cellules. Comme les diabétiques perdaient du poids grâce à ces molécules, elles ont ensuite été approuvées pour traiter l'obésité. Psychiatrie. Chez les diabétiques qui en prennent, ils semblaient avoir moins de démence, explique Simon Ducharme, neuropsychiatre au Cusum. Mais en décembre dernier, une étude internationale, EVOKE, a conclu que le médicament avait des effets très limités, ce qui a sonné le glas des espoirs quant à l'effet des agonistes du GLP-1 pour contrer la démence. Je pense que c'est la fin des efforts pour utiliser les agonistes pour les troubles cognitifs, dit le Dr Ducharme, qui faisait partie d'EVOKE. Par contre, il y a beaucoup d'intérêt pour s'en servir afin de traiter d'autres troubles psychiatriques, ajoute-t-il. Il y a des études en cours pour vérifier leur effet sur les dépendances et même la dépression et les maladies bipolaires. On y songe aussi pour les troubles de l'humeur, mais c'est un peu plus une partie de pêche. Certains patients pourraient par contre avoir des problèmes liés à leur effet sur la satiété, observe le Dr Ducharme. C'était un souci potentiel pour leur utilisation contre la démence, parce que les patients sont souvent frêles et ne doivent pas prendre davantage de poids et de masse musculaire. De plus, il pourrait être problématique pour les gens ayant eu des troubles alimentaires. La perte de poids pourrait les faire retomber dans le cercle vicieux de la compulsion alimentaire, souligne le chercheur. Reins et foie. Autre développement plus positif, en décembre 2025, Santé Canada a approuvé l'utilisation du Wegovy pour traiter la stéohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, MASH, M-A-S-H. Il s'agit du premier traitement pour ce trouble du foie qui touche plus d'un Canadien sur 20 et peut mener à la cirrhose, selon Giada Sebastiani, hépatologue à l'IR Cusum. Le quart des patients ayant une MASH, M-A-S-H, ne sont pas obèses, indique le Dr Sebastiani. Des données dévoilées à la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'étude du foie ont démontré qu'une partie de l'effet positif sur le foie ne passe pas par la perte du poids, note-t-elle. Les troubles du rein pourraient aussi bénéficier de l'aide des agonistes du GLP-1. En 2024, une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine a montré des effets bénéfiques chez des diabétiques ayant des problèmes de rein, note le Dr Sharma. Je pense que dans un premier temps, on pourrait utiliser les agonistes du GLP-1 pour le syndrome cardio-rénal métabolique, CKM, précise-t-il, soulignant qu'il traite des patients ayant ce problème à la clinique cardio-métabolique qu'il dirige. Est-ce que les problèmes de rein chez les patients non obèses pourraient aussi être visés? Ces médicaments semblent avoir des effets anti-inflammatoires qui dépassent la simple perte de poids, dit Babak Orandi, chirurgien de l'Université de New York, spécialiste des greffes chez les personnes obèses. Le Dr Orandi a publié en 2025 deux études montrant des effets bénéfiques de ces molécules sur les diabétiques ayant des problèmes graves de reins, effets qui ne dépendaient pas du poids du patient. L'une d'elles, publié dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology, montrait que chez les diabétiques sous dialyse, la mortalité baissait du quart. L'autre, publié dans le Lancet Diabetes Endocrinology, concluait que la mortalité baissait du tiers après une greffe de rein. Les bénéfices des agonistes pour les troubles du rein ne dépendent pas du poids du patient, confirme Catherine Tuttle de l'Université de Washington, spécialiste des comorbidités rein-diabète. Elle vient de publier dans Nature Review Nephrology une revue de la littérature où elle avance que ces médicaments pourraient diminuer la mortalité cardiovasculaire et générale chez les patients sous dialyse. L'exemple des statines. L'engouement pour les agonistes du GLP-1 peut être comparé à celui pour les statines il y a 20 ans, selon tous les chercheurs interviewés. Les statines sont des médicaments anticholestérol qui, au début du millénaire, étaient présumés avoir des effets au-delà du cholestérol, notamment pour les cardiopathies, les troubles cognitifs et le cancer. Finalement, ces effets ne se sont pas confirmés. Le docteur Atul Verma, directeur de la cardiologie au CUSUM, affirme « Je pense que les preuves pour les agonistes du GLP-1 sont plus fortes que pour les statines il y a 20 ans. » Thomas Eschenhagen, chercheur de l'Université de Hambourg, en Allemagne, en est moins sûr. Selon son analyse des résultats des études, au niveau des cardiopathies, les données montrent que la majorité des effets sont associés à la perte de poids, dit-il. Il avait publié en 2021 une étude montrant les effets des statines sur d'autres problèmes que ceux liés au cholestérol dans la revue Circulation. Selon M. Eschenhagen, les statines ont été présentées comme des médicaments miracles juste avant la fin de l'exclusivité des brevets. C'est la situation dans laquelle se trouvent actuellement les agonistes du GLP-1. « Je ne pense pas que c'est un hasard », note-t-il. Le détenteur de brevets aurait intérêt à maximiser les ventes de leurs médicaments avant la fin de leur période d'exclusivité. Par la suite, il n'y a généralement plus assez d'argent pour faire de nouvelles études afin de trouver de nouvelles applications. Incidemment, une étude publiée en décembre 2025 dans les Annals of Internal Medicine a conclu que les agonistes du GLP-1 ne diminuent pas le risque de cancer lié à l'obésité. C'était « Ozempic peut-il traiter d'autres problèmes que l'obésité? » Un texte de Mathieu Perrault paru le 18 janvier 2026 dans la presse.